va expliquer quel est le din de Rosh Hashanah et Kippour d'après Tosfot. Alors en fait, c'est des notions qui concernent toute l'année entière, mais spécifiquement Rosh Hashanah et Kippour. Alors je prends depuis le début. La Gemara dit dans Rosh Hashanah, Daftet Zayin, Shlosha Sfarim Niftachim Beyom Rosh Hashanah. C'est-à-dire, il y a trois livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah. Livre des Sadikim, des Rechaim et des Benonim, donc qui s'appelaient ceux qui sont moyens. Alors les Tzadikim, ils sont directement inscrits, signés dans le livre de la vie. Les Rechaim, dans le livre de la mort. Et les Benonim, ils sont comme Tzuim Vomdim, ils sont suspendus entre les deux jusqu'à Kippour. S'ils font Tshuva, et bien là, ils sont inscrits dans le livre de la vie. Top, Hasel Agmar. Ils ne font pas Tshuva, au contraire. Et là, tous les commentateurs posent la question, c'est que la réalité est différente. Et on voit beaucoup de tzadikim qui, des fois, ont une vie courte, et des rechaim qui ont une vie longue. Alors, comment ça marche? Comment comprendre cela? Alors, on a plusieurs réponses. Tosfot explique qu'il s'agit ici d'un din leolam abba. C'est-à-dire quoi? C'est le din par rapport au monde futur. Au monde futur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux dinim différents. Hachem, il nous juge sur deux tableaux différents. Un din bo'alam hazé, qu'est-ce qui va nous arriver du début à la fin de l'année, ainsi qu'un din le'olam haba, c'est-à-dire quoi? Quelle est en fait notre place dans le monde futur, notre place éternelle? Alors, on va expliquer de quoi s'agit-il. Parce que la question se pose, c'est que din le'olam haba, ça veut dire quoi? C'est lorsqu'une personne quitte ce monde. Là, il est jugé pour tout ce qu'il a fait toute sa vie. Et on va lui donner une place dans un monde spirituel, olam haba, une place plus ou moins éternelle dans le monde futur. Alors, a priori, quel rapport ça a avec Rosh Hashanah et Kippour? C'est-à-dire que ça, c'est un jugement qui se fait lorsqu'une personne a quitté ce monde-là pour vérifier quelle va être sa place dans le monde futur. Mais pourquoi Hachem va aussi s'intéresser à cela? Il va nous juger par rapport à cela le jour de Rosh Hashanah et Kippour. Alors la réponse est la suivante. Bon, alors je répète, on a déjà dit hier, on dit Rambam, que le Rambam, dans le Chatshuva, explique qu'en fait, la récompense aux mitzvot et aux averot, eh bien, elle n'est pas dans ce monde-là, mais elle est dans le monde futur. À part certaines mitzvot, dont on peut bénéficier aussi dans ce monde-là, comme le respect des parents, les invités, Talmud Torah, etc., le chesed. À part ça, la plupart des mitzvot, eh bien, la récompense, elle est réservée uniquement au monde futur. Le Rambam a proposé la question. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la Torah nous parle de récompense? Si vous ferez ça, je donnerai la pluie en son temps, la rosée, etc. Sinon, le contraire. Répond le Rambam qu'il ne s'agit pas de récompense ou de punition, mais il s'agit de conditions de travail. C'est-à-dire que Hachem nous donne, a priori, des conditions de travail qui vont être bonnes ou mauvaises pour bien mener notre mission, pour pouvoir travailler. La récompense de la mitzvah ou la punition de la vera va être gardée pour le monde futur. Maintenant, Hachem va te donner certaines conditions qui vont être bonnes ou mauvaises pour l'année à venir, dans ta vie, toute ta vie. Ça va aussi dépendre de certaines notions qu'on va expliquer. C'est-à-dire que, en fait, Hachem, Rosh Hashanah et Kippour, et en fait, cette notion est vraie, même pour toute l'année. La Gemara dit qu'on est jugé lorsqu'on quitte ce monde, on est jugé à Rosh Hashanah et Kippour, on est jugé tous les jours et chaque instant. Parce qu'en fait, n'est-ce pas, tout ce qu'on fait a un impact sur notre niveau spirituel, et automatiquement va contrebalancer notre balance de mitzvot et d'averot, notre essence spirituelle, notre essence par rapport à la Torah, les mitzvot, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer les attachés. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le fait d'accomplir la Torah, les mitzvot, ce n'est pas uniquement une question de compte. On ne fait pas ici le compte, n'est-ce pas, de combien de mitzvot tu as et combien d'averot. Ce n'est pas, n'est-ce pas, 100 contre 200, 2-0 ou 3-0, c'est pas ça la question. Tout d'abord, comme dit le Rambam, parce qu'il y a des mitzvot qui sont plus importantes que d'autres. Ve'averot plus que d'autres. Il y a encore une deuxième notion à prendre en compte. C'est comment est-ce que tu as fait la mitzvah? Est-ce que tu l'as fait alors que tu étais content ou alors tu étais contraint, obligé? Est-ce que tu l'as fait de kavana, avec une grande attention, ou alors, non, tu rêvassais dans ta tefila? C'est-à-dire, la façon de faire la mitzvah va aussi donner une plus grande importance à la mitzvah, pas aussi pour la vera. Comme dit le Chof Tzadikim, une mitzvah que tu fais avec joie, elle vaut 1000 fois plus qu'une mitzvah que tu as fait alors que pour toi c'était une contrainte, une obligation. Et les Baal HaMoussar disent que lorsqu'on écrit 1000 fois, c'est 1000 fois exactement. Pas 900, pas 999, mais 1000 exactement. Alors, une seconde, entre parenthèses. Donc, en effet, c'est ici un élément important à s'investir, c'est que ça peut être une bonne chose de s'investir toute l'année. C'est aussi une bonne résolution à prendre pour Kippour. De travailler la simcha, de s'investir à faire les mitzvot dans la simcha, ça prend du temps, ça prend des semaines et des mois, voire des années. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si tu arrives à le faire, eh bien tu vas décupler toutes tes mitzvot 1000 fois plus. Chaque mitzvah que tu vas faire, le Shabbat, la Kashrut, la Torah, la Tfila, le Chesed, la Tzaka, etc., va valoir 1000 fois plus. Donc ça c'est le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est la simcha, la kavana avec laquelle tu feras la mitzvah. Alors troisième paramètre à prendre en considération pour les mitzvot, c'est, ainsi que la verot, c'est est-ce que pour toi c'était difficile de faire la mitzvah ou facile? Est-ce que pour toi c'était difficile de te maîtriser contre la avéra ou facile? C'est-à-dire que une avéra que tu pouvais refouler facilement, tu pouvais te maîtriser de ne pas la faire, malgré tout tu l'as fait, c'est plus grave. Si c'était difficile de se maîtriser, la avéra est moins grave. Aussi à l'inverse, si on n'a pas fait la avéra, on a évité la avéra, alors que c'était très difficile de l'éviter, et bien la récompense est encore plus grande. Pas aussi pour la mitzvah. C'est que plus la mitzvah est difficile à réaliser, plus tu es récompensé. Plus la mitzvah est facile, la récompense est moins grande. Si tu ne l'as pas fait, c'est encore plus grave, etc. C'est-à-dire que on tient compte, n'est-ce pas, de la difficulté et de la facilité de la mitzvah et de la avéra, quand tu l'as faite, quand tu l'as pas faite, on a donc au total 8 cas différents. Et Hachem tient compte de tout cela pour te récompenser. Et en fait, alors mis à part ces 3 paramètres, il y a encore une autre notion qui intervient, qui en fait l'essentiel. Et c'est ce qu'une distance fait ici, c'est le Olam Haba. C'est-à-dire que, mis à part les mitzvot que tu vas réaliser de façon concrète, ce qui est important pour Hachem et pour toi, c'est en fait, quelle est ton essence spirituelle? Quel est ton niveau spirituel? C'est-à-dire que, c'est en fait ce qui est aussi ce qu'on vérifie lorsqu'une personne quitte ce monde. Alors, mis à part le compte des mitzvot, c'est quel est vraiment son niveau spirituel? Qu'est-ce qu'il vaut par rapport au monde spirituel? Le monde de la Torah et les mitzvot, c'est important pour toi ou pas? Des fois, on fait des mitzvot, on en fait 5, 10, 50, 200, 300. Mais on les fait comme ça. Ça nous intéresse pas. On les fait alors qu'on n'est pas très motivé, pas très intéressé. C'est-à-dire que si on ne les fait pas, ça nous fait ni chaud ni froid. Là, il y a un problème. Au contraire, quand tu es intéressé par la mitzvah, quand tu l'as faite, tu es content de la faire. En fait, c'est ça l'importance de la simcha, de la joie. Quand tu es content de la faire, eh bien, tu es en train de démontrer que la mitzvah, elle occupe une partie très importante dans ta vie. Qu'est-ce qui nous attriste dans notre vie? Est-ce que c'est manquer à la mitzvah, la tefila ou pas? Quand est-ce qu'on est plus triste? Lorsqu'on a arrêté une fila ou lorsqu'on a perdu une somme d'argent? En fait, c'est plus ou moins ça qui va définir notre niveau. Si, quand j'ai perdu, alors 50 euros ou 200 euros ou 200 000 euros, alors je suis triste. Alors là aussi, ne pas. Ça, tu vas montrer quelle somme d'argent t'est importante. Quelle somme d'argent te chagrine. Pas aussi pour la mitzvah. Tu vas aussi montrer la mitzvah. Elle vaut combien à tes yeux? Si une telle somme d'argent te perturbe beaucoup plus que la mitzvah qui est manquée, eh bien, automatiquement, tu t'es démontré qui est en train d'exprimer le fait que cette mitzvah, elle vaut plus ou moins que telle somme d'argent. Alors, c'est un exemple, il y a 36 exemples. Si quelqu'un t'a vexé, ça te dérange, t'as dit un mot de travers, ça te dérange. Bon, alors on peut passer l'éponge après quelques minutes. Des fois on peut en être malade pendant quelques jours, quelques semaines, on peut s'en rappeler pendant 10 ans, ça arrive aussi. Et donc parce que ça nous a froissé, ça nous a perturbé. Est-ce que manquer une mitzvah, ça te perturbe de telle façon? Là tu es en train de montrer qu'est-ce que vaut la mitzvah à tes yeux. En contrepartie, si on est prêt à donner une belle somme d'argent pour faire une mitzvah, pour monter à la Torah, pour acheter un Sefer Torah, etc., eh bien l'argent que tu es prêt à investir, le temps, l'énergie, la force, la concentration, va montrer l'importance que tu as pour cette mitzvah, l'appréciation que tu vas avoir pour telle mitzvah. Comme on l'a expliqué hier, c'est qu'en fait, le respect et la valeur que tu as pour tel élément va montrer en effet qu'est-ce qui vaut à tes yeux. Et en fait, c'est ça, n'est-ce pas, la notion la plus importante par rapport à la Torah et les mitzvot. Quelle partie ça occupe dans ta vie? Il y a aussi une autre façon de vérifier à quel point c'est important. Quand tu proposes quelque chose, un cours de Torah, une fila, tu dis j'ai le temps, j'ai pas le temps. Le temps il est là, c'est pourquoi je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que je suis affairé à l'instant à quelque chose qui est plus important que ce que tu me proposes. Alors si je dis j'ai pas le temps, pourquoi? Parce que j'ai un match de foot ou alors un film à la télé. Donc j'ai en fait déclaré que mon film, mon match de foot est plus important que le cours de Torah que tu me proposes. Si c'est le contraire, j'accepte. Eh bien, j'ai démontré qu'en fait, ce cours est plus important. Comme on a dit la semaine dernière, je suis en train d'étudier la Torah ou de faire ma prière. Et tout d'un coup, je suis interrompu par un coup de fil. Par un téléphone, mon portable que j'ai à côté de moi. Alors, quand je réponds à ce coup de fil, eh bien, j'ai montré qu'en fait, le coup de fil est plus important que mon cours de Torah ou ma tefila. Et même si j'ai mis le portable à côté de moi et j'ai pas été interrompu pendant 4 heures d'études, c'est pareil. Parce que le fait d'avoir laissé mon portable ouvert, j'ai déclaré qu'en fait c'est plus important que mon cours, que ma tefila. Même si par hasard j'ai pas été interrompu. Mais j'ai déclaré que si on m'avait appelé, j'aurais répondu. Et là, n'est-ce pas, c'est le bilan essentiel à faire dans la vie en général et surtout à l'approche de Kippour. En fait, quelle priorité tu donnes à chaque tefila, chaque mitzvah, chaque Torah? Quelle est, n'est-ce pas, ton échelle de valeur? Quelles sont tes valeurs dans ta vie? Est-ce que la mitzvah occupe une telle place ou telle place? Alors en fait, on peut se rendre compte que oui, que au Hashem en général, les mitzvot occupent une place importante dans notre vie. La preuve, on est prêt à se fatiguer chaque semaine pour le Shabbat. On est prêt à payer les produits kachers plus chers, ils coûtent bien plus cher en effet, bien souvent. On est prêt à investir le prix. On est prêt, n'est-ce pas, à des fois à faire un voyage pour trouver un magasin kasher quand on est en vacances. Ça prend du temps. Là, on est en train de démontrer l'importance du Shabbat de la kashrout. C'est-à-dire qu'en fait, on est constamment entouré par des mitzvot et sans s'en rendre compte, on investit du temps et de l'argent pour la mitzvah. Ils ont fait une preuve que la mitzvah est importante. Mais on est toujours à un niveau où on peut élever son niveau spirituel. Comme dit Lord Dessler, il dit que en fait, il y a comme une échelle infinie, du parterre au ciel. Et chacun se trouve à un échelon bien précis. Ça peut être du numéro 10, numéro 50, 200, 3000, etc. Et en fait, notre devoir, c'est toujours, n'est-ce pas, de monter d'échelon en échelon. Éviter de stagner et surtout éviter de régresser. Et en fait, là où tu es sur l'échelle, le Satan, le Yetzara, il va essayer de te faire basculer, de faire tomber. Par exemple, quelqu'un qui est loin de la Torah, alors il aura, n'est-ce pas, une hésitation, est-ce que manger kasher ou pas? Quelqu'un qui est plus avancé, ce stade est déjà pour lui révolu, il aura une hésitation, est-ce que faire Shabbat ou pas? Pour nous, eh bien c'est différent, la question c'est, est-ce qu'on se lève tout le matin ou pas? Est-ce qu'on dit la chambre ou pas? Etc. Alors, en général, quand on fait un bilan toute l'année, tous les jours, chaque semaine, et surtout le bilan annuel avant Kippour, ça on doit vérifier. Quelle importance occupe la mitzvah dans notre vie? Quelle est en fait l'essence spirituelle de notre âme? est-ce que c'est une partie prenante, une partie vraiment gigantesque, c'est l'essentiel de notre vie, ou plutôt un élément secondaire dans notre vie? Ken.
Mais Hachem, il va nous juger par rapport à la valeur qu'on va donner à l'islam. Donc, on l'a il va nous juger par rapport à cette valeur-là, parce qu'on sait que la misère, elle n'a aucune limite. Sa valeur spirituelle, elle n'a aucune limite. Il va nous juger par rapport à la
valeur que nous, on donne à la mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah, en effet, elle est infinie. Mais maintenant, nous, on va bénéficier de la mitzvah dans la mesure où on l'a appréciée. C'est-à-dire que tu vas recevoir, tu vois, en fait, récompenser. Mais ce n'est pas une récompense, c'est pas une paye pour la mitzvah. C'est une récompense automatique. Tu vas être éclairé, illuminé, spirituellement, par la mitzvah, selon la valeur que tu as donnée. Parce que tu t'es bâti une identité spirituelle par rapport à cela. Et on arrivera dans le futur avec ce bagage de mitzvot, avec cette essence spirituelle qu'on a donnée réellement à notre âme. Et à cela, disait Tosfot, que lorsque Hachem vient nous juger, le jour de Rosh Hashanah et Kippour, eh bien en fait, c'est ça ce qui est important. C'est ça le dit là-bas. On a demandé pourquoi est-ce que Hachem s'intéresse à cela. Hachem nous juge, qu'est-ce qui va nous arriver du début à la fin de l'année? Pourquoi est-ce que notre niveau spirituel est important? Parce qu'en fait, Hachem veut décider ce qui va nous arriver du début à la fin de l'année. Alors, comme on l'a ramené, on nous dira, bam, c'est qu'en fait, ça c'est important, mais c'est un élément secondaire. Le plus important, c'est d'abord ton identité spirituelle. À quel point la mitzvah est importante et prioritaire dans ta vie? C'est-à-dire qu'en fait, a priori, un tzaddik, quelqu'un pour lequel la mitzvah, la Torah est importante, Hachem va lui donner des conditions de travail les plus parfaites, les plus adéquates. On va expliquer pourquoi c'est encore différent, bien souvent. Mais a priori, eh bien, Hachem, il vient vérifier quel est ton niveau spirituel, quelle est ton essence par rapport à la Torah et les mitzvot, pour ensuite décider quoi te donner. Comme dit le Rambam, parce qu'en fait, ce qu'Hachem nous donne, c'est pas une récompense. La récompense est garde au monde futur, il te donne des conditions de travail pour l'année à venir. C'est-à-dire que, a priori, si tu suis bien la Torah, eh bien Hachem va te donner la richesse, la santé, la famille, etc. Sinon, le contraire, c'est l'homme des perturbations toute l'année. Alors cependant, pour te donner cela, il est en train de vérifier, est-ce que la Torah t'est importante? Si elle t'est importante, on va te faciliter la tâche. On va t'aider à l'étudier. Si la mitzvah est importante, eh bien Hachem il va t'aider à l'accomplir. Si la tefila, pour toi, c'est une notion qui est essentielle dans la vie qui est primordiale, Hachem va t'aider à te concentrer. Il va t'aider à habiter à côté d'une synagogue dans laquelle tu pourras bien prier. C'est-à-dire que les conditions de travail que tu auras, des conditions spirituelles autant que les conditions matérielles. Parce que ces conditions dans ces deux domaines-là différents sont importantes. Alors cela va dépendre de ton niveau spirituel, de ton coefficient moral, intellectuel et spirituel. C'est pourquoi Hachem y vérifie, dit Tosfot, notre niveau l'Olam Haba. Si on quitterait ce monde, eh bien, quelle serait notre place dans le monde spirituel, qui en fait va définir quelle est notre identité par rapport à la Torah et les mitzvot. Ça, c'est le premier din à vérifier à Rosh Hashanah. Ensuite, en fonction de cela, par conséquence, eh bien, Hachem va nous décider de nous donner une année de ce genre-là ou de ce genre-ci. Oui, maintenant, répondre à la question, ce qui est encore un problème. Et encore un problème, c'est que la réalité nous paraît différente. C'est-à-dire que, bon, on dit qu'un tzaddik, quelqu'un qui fait les mitzvot, qui aime la Torah et les mitzvot, eh bien, a priori, devrait avoir les meilleures conditions dans l'année. On voit bien souvent le contraire. Par aussi des gens qui s'en fichent de la Torah et des mitzvot et ont les meilleures conditions. Alors en fait, bon, là c'est un sujet à part, qui est assez complexe, on va donner quelques indices là-dessus. Alors en fait, bon, mis à part des exceptions, c'est-à-dire que des fois Hachem peut amener de grandes souffrances à quelqu'un pour pardonner à sa génération. Parce que lui, n'est-ce pas, c'est une personne qui est en train, n'est-ce pas, d'avoir une place primordiale par rapport à sa génération. Un grand sadique qui peut pardonner pour des milliers de personnes. Ça, c'est des cas à part. Mais la question essentielle est la suivante. C'est que lorsqu'on parle de bonnes ou mauvaises conditions de travail, c'est pas ce que nous, on entend les bonnes ou mauvaises conditions. C'est-à-dire que un tzaddik qui aime la Torah et les mitzvot, eh bien, on pourrait considérer qu'Hachem donne a priori la richesse, la santé et la famille comme il faut. Non, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les bonnes conditions, c'est quoi? C'est pas avoir une belle vie. Parce que nous, évidemment, nous, on est intéressé à avoir la belle vie sur Terre. Mais Hachem, il n'est pas intéressé par cela. C'est-à-dire quoi? Hachem veut notre bien. Notre bien, c'est le bien de notre neshama, notre âme. À longue échéance, dans la vie éternelle, au monde futur. Des fois, Hachem se rend compte que s'il va te donner à toi telle condition, te donne la santé, la richesse, par exemple, eh bien, il y a des gens qui, au contraire, ils vont quitter, abandonner la Torah à cause de cela. Même si, a priori, c'est un grand sadique, eh bien, il risque, à cause de sa richesse, de flancher, de déraper. Et c'est pourquoi Hachem lui amène des conditions difficiles par rapport à la santé, aux finances, à la famille, etc. Des fois, certaines personnes, ils font tshuva grâce à la maladie. Dit le Midrash, il y a un Yutal Israël. C'est-à-dire que la pauvreté, elle est belle pour Israël. C'est-à-dire qu'en général, il y a deux épreuves. La richesse ou la pauvreté. Et dit le Midrash, l'épreuve de la richesse est plus difficile à surmonter que celle de la pauvreté. Parce que quelqu'un qui a des problèmes, qui a des misères, en général, il se rapproche d'Hachem. Des fois, on peut se révolter, malheureusement, faut être très prudent. C'est, il y a quatre façons d'aborder les problèmes de la vie. Le plus bas, il faut éviter, c'est de se révolter. De se mettre à rouspéter, à râler, pourquoi ci, pourquoi ça, et moi je fais des mitzvot, et j'ai fait tchouva, et Hachem ne m'aide pas. Ça, c'est très dangereux de faire cela. On ne doit jamais se révolter. Si on se révolte, alors on risque de perdre l'effet bénéfique de l'épreuve de la souffrance. Un niveau au-dessus de cela, c'est accepter les problèmes mitoch achna'a. C'est quoi achna'a? C'est une certaine soumission. Se soumettre à ce qu'Hachem a décidé, sans comprendre réellement pourquoi. Mais on sait, n'est-ce pas, que Hachem fait ça pour notre bien, sans comprendre pourquoi. Troisième niveau, le kabel mitoch ahava. Accepter avec amour pour Hachem et la Torah. C'est-à-dire que on comprend pas aussi, mais vraiment on est persuadé, même point de vue du sentiment, que c'est pour notre bien. Et on l'accepte mitoch ahava et ça nous rapproche d'Hachem. Ça nous donne plus d'amour pour Hachem. Quatrième niveau, qui est très élevé, au-delà de nos capacités, c'est ce que faisait David Ameler, les kael mitoch simcha. Accepter les souffrances dans la joie. Dans la joie réelle. C'est une personne qui se rend compte de façon concrète, qui ressent profondément que la souffrance, l'épreuve, elle est là pour son bien et l'élève. Alors, on n'est pas à ce niveau-là, mais pas au moins essayer de rester dans ces deux niveaux-là, pas avec soumission et avec amour. D'accepter les épreuves de la vie avec soumission, ou encore mieux, avec amour pour Hachem et envers la Torah. C'est-à-dire que, bien comprendre qu'en fait, ce qu'Hachem décide pour nous, c'est pour le mieux. Hachem peut donner des bonnes conditions ou mauvaises, mais en fait, c'est pour le mieux. Parce que des fois, Hachem est persuadé que la richesse pour toi, c'est mauvais. Au contraire, il faut que tu sois en difficulté. Alors, certaines personnes ont des grandes difficultés, d'autres des petites difficultés. Là aussi, eh bien, c'est choisi avec beaucoup de doigté, beaucoup de précision. La Gemara dit sur le verset, dans Kitavo, des maladies, des souffrances, eh bien, qui sont mauvaises et qui sont aussi de confiance. C'est quoi Némanim de confiance? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on envoie au ciel des souffrances sur quelqu'un, on les fait jurer. Aller sur telle personne et rester sur lui pendant telle période. Pendant 3 mois, 2 semaines, 3 heures, 35 et 26 secondes. Ni plus ni moins. Ni plus, ni moins. On les fait jurer. Il y a aussi une souffrance avec telle intensité. Des fois, la maladie est grave, elle n'est pas grave. Des fois, les problèmes, ils sont plus intenses ou moins intenses. C'est-à-dire que tout est décidé auparavant. Même lorsqu'Hachem a des mauvais décrets pour nous, Chas v'Shalom, c'est toujours un tikkun. C'est pour nous amener à réparer ce qu'on a fait auparavant. Et c'est la meilleure façon de le réaliser. Par exemple, si quelqu'un fait mal sa tefila, par exemple, ou pas la tefila du tout. Hachem, il voit à longue échéance quel est le bien de son âme, il veut l'inciter à faire la tefila. qu'est-ce que Hachem va faire? Il va lui amener un problème de maladie, de finances, de famille, etc. Ce qui va, tôt ou tard, qu'il veut ou non, l'inciter à la tfila. Alors, c'est un problème que lui va essayer de résoudre par la tfila. Alors, en fait, lui considère que la tfila, c'est un moyen de résoudre le problème, mais pour Hachem, c'est le contraire. Pour Hachem, la finalité, c'est la tfila. Et le moyen, c'est la maladie, le problème. Donc Hachem voit à longue échéance le bien de notre âme, et il amène un problème pour qu'on puisse s'élever spirituellement. Pour qu'on puisse arriver à un niveau de l'un à bas qui est plus élevé qu'on avait auparavant. Alors en fait, quand on fait le bilan, avant Yom Kippour, ou le bilan en général, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Quelle est la partie importante et primordiale dans notre vie? Quelle importance la mitzvah et la Torah occupent dans notre vie? Est-ce que c'est important ou c'est secondaire? Par aussi pour la Avera. Une Avera, quand on l'a fait, est-ce qu'on l'a fait avec volonté ou alors de façon plus ou moins sans vraiment volonté réelle?
Mais est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par la souffrance pour avoir du mérite?
On n'est pas obligé, au contraire. C'est pourquoi on a la tchouva. La tchouva évite toute souffrance. Enfin, il y a trois façons de réparer la faute. Ou la tchouva, ou la souffrance dans ce monde-là, ou la souffrance dans le monde futur. Le plus facile, c'est la tchouva. La tchouva répare tout. Mais dans la tchouva, n'est-ce pas, on explique ce que la tchouva, c'est pas uniquement la tchouva spécifique par rapport à Averot, mais aussi, c'est aussi la tchouva par rapport à notre niveau spirituel, par rapport à notre essence, notre identité morale, intellectuelle et spirituelle, par rapport aux mitzvot. Est-ce qu'on s'identifie avec la Torah et les mitzvot, ou alors c'est étranger à nous? C'est ça ce qui est important. Encore un dernier mot, c'est que de nos jours, on a un effort particulier à faire par rapport à cela. Pourquoi? Parce que de nos jours, malheureusement, on subit un lavage de cerveau constamment par les médias. Parce qu'en fait, si on va vérifier, qu'est-ce qui va définir, déterminer quelle est notre identité par rapport à la Torah? Quelle est notre essence spirituelle? Eh bien, ce qui va nous faire vibrer, ce qui va faire vibrer notre sentiment et notre esprit. Lorsqu'on est exposé aux médias qui nous vraiment font un lavage de cerveau de façon massive, presque tous les jours, automatiquement, eh bien, on est influencé par cela. C'est surtout de nos jours, avec la technologie, eh bien, on montre pas dans les films des photos qui n'existent pas. Enfin, on montre pas des stars, des acteurs, des actrices qui sont bien plus beaux, plus belles que dans la réalité. On les transforme par la couleur, par le son des plus belles voix, ainsi que par la forme, n'est-ce pas, des yeux, etc., de n'importe quelle partie du corps. Et ça te montre, n'est-ce pas, des personnes qui sont imaginaires. Est-ce qu'ils nous font vibrer le sentiment? Est-ce qui va, n'est-ce pas, pénétrer au fin fond de notre esprit, notre sentiment et notre âme? Et c'est encore plus délicat. C'est encore un problème, n'est-ce pas, plus difficile à affronter. Pourquoi? Parce que ce qui va te faire vibrer du point de vue du sentiment, eh bien, ça va fusionner avec toi. Tu vas t'identifier avec cela. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, alors, d'une part, on doit éviter à tout prix cela. D'autre part, lorsqu'on fait la tchouva, eh bien, on doit essayer de vibrer dans la Torah, de trouver la simcha dans la Torah, ce qui va nous permettre d'effacer ces mauvaises impressions, ces vibrations sentimentales par rapport au monde extérieur. Entre parenthèses, c'est un des éléments qui est en train de briser la cellule familiale. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne, avant de se marier ou après son mariage, eh bien, est en train pas de voir des centaines de films à la télé, en vidéo, etc. Et il va pénétrer dans un monde imaginaire. Il va s'imaginer sa future épouse. Ou alors il va toujours chercher dans son imagination, eh bien, une telle personne qui en fait un mixage des centaines de stars qu'il a vues, qu'il a imaginées. Tout d'abord, c'est impossible. Ça n'existe pas. Deuxièmement, même si c'est possible, eh bien, c'est loin de la réalité. Mis à part cela, il faut bien comprendre, n'est-ce pas, que la Torah, moi, je voudrais faire un cours là-dessus, de la chaîne, la Torah, n'est-ce pas, lorsque elle nous a évité tout cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la cellule familiale, d'une famille, eh bien, c'est au contraire, c'est vivre, n'est-ce pas, avec, entre époux, et avec parents et enfants, dans toutes les conditions possibles. Même dans les problèmes de la vie. lorsqu'on voit, n'est-ce pas, dans les médias, et bien on voit les acteurs qui sont uniquement à un niveau, on va dire, très élevé à leur summum, n'est-ce pas, de leur personnalité, à tout ce qui est tape à l'œil, à tout ce qui est vraiment éclatant, tout ce qui est vraiment explosif. Et bien automatiquement, on s'imagine cela, on cherche cela, et on s'éloigne de la réalité, alors qu'en fait, pour créer une famille comme il faut vivre ensemble, même dans les problèmes de la vie. Lorsqu'on est en train d'aborder les petits problèmes de la vie ensemble, c'est là où on se lie intimement. Et le monde occidental est en train de détruire les familles à cause de cela. Entre parenthèses, il y a tout un groupe de professeurs et scientifiques aux États-Unis qui font, n'est-ce pas, une propagande contre la télé. Parce qu'ils sont rendus compte des effets nocifs pour les enfants de la télé. Au Japon, à partir de l'âge de 7 ans, dans toutes les écoles, les garçons et filles sont séparés. Sans rapport avec la Gdusha ou Tzniout, ils se sont rendus compte uniquement que les records scolaires, les réussites des enfants étaient bien meilleures lorsqu'ils sont séparés entre garçons et entre filles. Alors, lorsqu'on fait notre bilan annuel avant Kippour, on doit vérifier, parce que bon, on l'a fait sur la Avera, c'est vrai, mais on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est quelle est ton identité spirituelle? Et lorsqu'on est à la merci du monde, de la technologie, des médias, à part les médias, c'est la culture occidentale. C'est les mœurs dans lesquelles on vit, on grandit. Vous savez, ça pénètre inconsciemment dans notre esprit. Et on ne sait pas de quelle façon ça agit, ça travaille. Et des fois, on a des conceptions, des préjugés, des idéologies, auparavant, n'est-ce pas, qui sont déjà préconçues par les mœurs du pays dans lequel on vit, par les médias qui nous ont bourré le crâne pendant des années, sans se rendre compte, c'est ce qu'on pense. On a oublié quand on fait ce qu'on pense, c'est les médias. Comme a dit une fois un grand penseur, le monde de la démocratie, eh bien, a permis à l'homme de faire ce qu'il veut, mais lui a dicté que vouloir. On te dit, fais ce que tu veux, mais en fait, ce que tu veux, on t'a dicté. C'est les médias qui vont décider pour toi, par leur influence, leur impact, que vouloir. Et ce que tu veux, c'est ce que tu as vu, n'est-ce pas, la veille, l'avant-veille, à la télé, au cinéma, pas à la radio, etc. Alors qu'en fait, la Torah nous dit, il faut s'écarter de toute influence extérieure. Au contraire, il faut écarter tout cela, comme le Shabbat, on n'a plus tout ça, on a l'abri de tout cela, on se recueille dans la Torah, dans les mitzvot, dans la tefila. C'est des notions qui sont divines. C'est une Torah, une science qui est divine, du ciel, qui est au-delà de l'humanité, qui est pure, qui est objective. Alors ça, c'est toute l'année. Alors avant Kippour, on fait un bilan. Il faut vérifier, mis à part la vera spécifique, en effet, il faut une tshuva là-dessus, mais il faut aussi une tshuva générale. Une tshuva générale de notre identité. C'est aussi écrit, on fait un livre dans le Rambam, que la tshuva, mis à part la tshuva sur chaque faute, il y a aussi une tshuva générale. La faute nous a éloignés d'Hachem. Dans la tshuva, on doit se rapprocher d'Hachem. Comme on dit le nom de tshuva, la shuv, c'est revenir. Revenir vers Hachem. Alors, c'est par rapport à la faute spécifique, mais aussi surtout par rapport à ton identité, par rapport à ton essence spirituelle. Qu'est-ce que tu es réellement? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à la mitzvah? Quel intérêt, quelle motivation la mitzvah, la tefila, la Torah est là pour toi? Dans ce domaine-là, il faut faire un bilan, et c'est là où il faut agir à partir de Kippour, prendre des fermes résolutions. Je vous dis, la plus grande choix de nos jours, c'est de mettre ça de côté. Tous les médias qui nous perturbent, les mettre de côté. Alors, quand c'est déjà révolu, alors en effet, il faut encore effacer l'influence négative de ces médias dans notre esprit. Parce qu'on peut y penser après 10 ans ou 20 ans. Et tant qu'on est à la merci de tout cela, eh bien en effet, ça nous freine par rapport à la Torah. C'est un Baal Tshuva avait dit une fois, il faisait des compétitions. Quand il a fait Tshuva, il a raconté, il a dit que ceux qui font de la natation, alors en général, ils se rasent le corps entier, même les poils des pieds. Pourquoi? Parce que les poils, eh bien, accrochent un peu d'eau et ça va les freiner. Ils vont perdre quelques secondes. Pas aussi ceux qui font du cyclisme, mais vers la fin de la course, eh bien, ils jettent la gourde, la casquette, n'importe quel objet qui pèse 50 grammes ou 200 grammes pour ne pas être freiné, pour gagner quelques secondes. Alors, il s'est dit, pas aussi pour la Torah. Dans la Torah, pas tout est interdit. Beaucoup de choses qui sont permis. Mais ce qui est permis, ça peut te freiner aussi. Il peut avoir, je veux dire, une gourde et une casquette sur lui, c'est pas interdit, d'après les lois du cyclisme. Mais ça te freine dans ta course. Des fois aussi pour la Torah, même ce qui est permis, on doit éviter certaines choses qui nous freinent dans la course, qui nous freinent dans la Torah, dans la tefila. On peut des fois penser à des choses qui sont permises dans la tefila, mais c'est dommage parce que tu dissipes ton esprit. Même si c'est permis, ça te freine dans ton élévation spirituelle. Tu montes sur une montagne de la Torah, de la mitzvah, mais tu es freiné parce que tu as un boulet auquel tu es accroché qui est très lourd. Ça peut être la vera, ça peut même ne pas être la vera, mais tout ce qui nous attire par le monde extérieur, le monde qui n'est pas de la Torah, eh bien ça peut nous freiner, c'est bien dommage. Tu sais, dans la boxe, mais il y a aussi des lois. Qu'est-ce qui est permis? Où on peut taper, où c'est interdit? Il n'y a aucune loi qui interdit à un boxeur ou alors à n'importe quel sportif de fumer de la cigarette ou de prendre du whisky. C'est permis. Fume 50 cigarettes par jour, c'est permis. Mais évidemment, un sportif intelligent, il va éviter la cigarette. Parce que c'est pertinemment que s'il fume beaucoup, eh bien, ça va l'asphyxier, ça va lui donner un rendement moins meilleur dans sa compétition. Pas aussi pour la Torah. C'est que dans la Torah de Kippour, il faut vérifier, mis à part la Avera, tout ce qui nous éloigne d'Hachem, tout ce qui nous freine. Tout ce qui nous freine. Et le monde extérieur, même dans ce qui est permis, eh bien, ça nous dissipe l'esprit. Ça nous distrait. Ça va nous freiner dans notre course pour la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, Kippour, donc c'est une tshuva, non seulement par rapport au Averot, mais aussi et surtout par rapport à l'identité, par rapport à la personnalité humaine. Et c'est pourquoi c'est un jour dans lequel on doit vraiment s'écarter de tout. Pendant 24-25 heures, on ne mange pas, pain, on fait une prière le matin et le soir, parce qu'en effet, on met tout à l'abri. C'est comme si on fait une tvila, on se trempe dans un mikvé de feu et d'eau pour se purifier entièrement. Parce que ce n'est pas uniquement la vera que tu vas réparer, mais aussi, c'est aussi l'identité qu'on va essayer de se renouveler. On va réaliser une métamorphose dans cette journée-là, non seulement par rapport à la vera qu'on va quitter, mais aussi par rapport à ce qu'on est, à notre essence spirituelle. Finiske, Gmar Khatima Tova, Amen.